Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Bonsoir à tous, chers amis, et bienvenue dans les vraies voix qui font bouger la France. Première de la semaine, si j'ose dire. À partir de 19h30, parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Stéphane Soumier en compagnie de tous ses invités. Mais avant sa place aux voix de la politique, comme tous les lundis de 19h à 19h30. Au programme ce soir, tiens, et si c'était lui, le candidat surprise, celui qui fait rêver une bonne partie de la droite et de la droite de la droite, celui qui fait peur à une bonne partie de la gauche, de la gauche de la gauche, et du centre même, Éric Zemmour. Et si se présenter au présidentiel. Une enquête assez passionnante d'ailleurs du magazine L'Express n'écarte pas du tout cette hypothèse. Serait-il un candidat crédible, Éric Zemmour? On en parle avec Maxime Thiébaut et Nicolas Corato dans quelques secondes sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
Il est 20h, voici le nouveau président de la République.
Éric Zemmour.
Bienvenue à tous dans les voix de la politique sur Sud Radio et les pires cauchemars de notre invité Nicolas Corato. Bonsoir à vous Nicolas Corato.
Bonsoir, bonsoir. Quel film d'horreur.
Quel film d'horreur qui vous a été préparé par notre réalisateur Jamel Abdellah. Je rappelle Nicolas Corato que vous êtes fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est publié chez Eredium. Avec vous ce soir Maxime Thiébaut. Bonsoir à vous.
Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Nicolas.
Docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. Et si c'était lui le candidat surprise, en quelque sorte l'Emmanuel Macron bis, mais de 2022 et non de 2017, celui qui sort de aucun parti, qui n'en représente aucun, mais qui pourrait se présenter grâce à sa notoriété, grâce à son image et susciter les suffrages surprenants d'une bonne partie des Français. Que donnerait une candidature à Zemmour? Est-il un candidat crédible pour l'élection présidentielle? Lui-même l'écarte de moins en moins. Une grande enquête dans le magazine L'Express d'ailleurs le rappelle. Est-ce qu'il est en train de consulter ou pas? Qu'est-ce que ça ferait? Voteriez-vous Zemmour ou pas du tout? Nicolas Corato, à vous l'honneur.
Oh, moi, la réponse, elle est toute trouvée. Vous êtes étrange, Jean-Marie, de me la poser. Non, hors de question pour moi de voter Zemmour. La question qu'on peut se poser, c'est que viendrait-il faire dans une telle galère? C'est-à-dire que Éric Zemmour vend beaucoup de livres. Éric Zemmour fait des scores d'audience absolument faramineux.
Tout à fait.
Mais est-ce que ça en ferait un candidat qui ferait beaucoup de voix à une élection? La politique, c'est pas la même chose qu'être un intellectuel. Éric Zemmour, il s'inscrit dans une longue tradition française des intellectuels qui participent au débat public. Et on sait que ces intellectuels, quand ils essayent de faire carrière, entre guillemets, en politique, ils ont énormément de mal à accrocher à ce dispositif.
Vous avez un exemple, par exemple, d'intellectuel qui a essayé de se lancer dans le passé sans être dans le même camp politique qu'Éric Zemmour?
Oh, on en a quelques-uns en tête. On peut citer des gens. Par exemple, vous avez l'exemple de Jean-Paul Sartre qui a hésité à un moment et puis qui a reculé. Ben, tout intellectuel en France a un jour le fantasme de faire de la politique. Alors, le plus souvent, il préfère être nommé par le pouvoir en place que se présenter devant les urnes, parce que c'est plus facile d'être influent auprès du pouvoir en place quand on est un intellectuel plutôt que de passer sous les fourches codines de l'élection.
Donc, pari difficile en tout cas pour Éric Zemmour, d'après vous. Maxime Thiébaut.
Est-ce que je voterais pour Éric Zemmour?
Alors, est-ce que d'abord il serait un candidat crédible? Est-ce que ce serait une chance? Est-ce qu'il aurait une chance?
Il ne faut pas oublier que la crédibilité d'un candidat, ce sont les maires qui le disent. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà 500 parrainages. Donc, que va devoir rassembler Éric Zemmour ces 500 parrainages. Une campagne de parrainage, ça prend du temps, c'est compliqué, c'est pas certain que les maires voudront s'exposer ainsi. Donc, je ne suis même pas certain que s'il décidait lui-même de vouloir se présenter à l'élection présidentielle, il aurait les parrainages. Donc déjà, il y a quand même ce facteur-là. Le point où je suis un peu en désaccord avec Nicolas, c'est sur la potentialité d'une candidature qui viendrait à aboutir de Zemmour. Il y a quand même eu un changement depuis les années 70, c'est qu'on est passé d'une démocratie représentative, où c'était les partis politiques qui montaient leurs candidats, etc., à une démocratie qu'on appelle de la communication. Une démocratie continue, une démocratie publique. Et la démocratie du public, elle fait qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus dans une attente de programme, ne sont plus dans une attente de parti, ils sont dans une attente de réponse à une offre qui est la leur, dans une attente de communication, dans une attente de médiatisation. politisation. Et on l'a vu avec Emmanuel Macron. Mmh. Emmanuel Macron a été ce candidat qui n'était pas attendu et qui a su se servir des sondages, qui a su se servir de l'opinion et qui a su se servir de son exposition médiatique pour devenir président de la République. Éric Zemmour a très bien compris cela. Et il pourrait en tirer profit pour devenir demain candidat à l'élection présidentielle. C'est pour ça que Marine Le Pen est inquiète. Ouais. Parce qu'elle le sait, elle aussi. On ne sait pas quel mouvement, quel engouement pourra entraîner une candidature d'Éric Zemmour. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'il y a une différence entre vouloir faire le buzz, ce que sait très bien faire Éric Zemmour, et franchir le Rubicon, d'aller sur une campagne électorale telle que celle-ci. Et ça, je ne sais pas si, au fond de lui, il est vraiment convaincu à l'heure actuelle d'une candidature
c'est pas
de
sûr.
Sa personne.
Il entretient le doute, en tout cas, il l'avait dit notamment sur Paris Première il y a quelques semaines. Alain Duhamel lui demande s'il veut se présenter, en tout cas se lancer en politique. Il répondait, je cite, « c'est pas ici et aujourd'hui que je vais le dire », manière aussi d'entretenir le suspense. Tiens, question toute précise, Nicolas Corato, si Zemmour était un parti ou proche d'un parti politique, ce serait lequel? Parce que quand on regarde notamment sur les réseaux sociaux, les sympathisants d'Éric Zemmour, ils ne sont pas tous nécessairement au Rassemblement National. Un certain nombre sont à droite, d'autres sont hors parti. Quel parti, lui, est le plus proche d'Éric Zemmour?
Oh, c'est difficile à dire parce que justement, le buzz autour de cette fuite dans l'Express, savamment orchestré, prouve bien à quel point la droite extrême ou l'extrême droite se cherche en ce moment. Il y a quelques jours, on nous parlait de Bigard, on nous parle toujours du général de Villiers, maintenant Zemmour, demain Marion Maréchal Le Pen. Bref, il n'y a que Marine Le Pen qu'on n'interroge plus sur ses ambitions présidentielles. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans ce coin-là. Après, effectivement, vous avez raison, Zemmour est un ovni politique. Parce que Zemmour, c'est un républicain bonapartiste, plus bonapartiste que républicain, avec une vision de l'histoire contemporaine de la France très très particulière que n'aurait jamais endossé le général Bonaparte et encore moins l'empereur Napoléon et encore moins De Gaulle. Éric Zemmour sort un peu de nulle part, peut plaire à beaucoup de gens à droite, mais finalement, quand on le regarde dans sa globalité, ne correspond à aucun parti ou aucun mouvement. C'est-à-dire que je pense qu'à droite, finalement, il arriverait plus à diviser qu'à réunir. Si vous voulez globalement prendre la pensée de Zemmour, il faudrait réunir des gens qui ont été plutôt dans l'OAS pendant la guerre d'Algérie, qui ont pu être gaullistes sociaux, parce que c'est bien gentil d'être gaulliste social, qui ont une vision un peu macronienne, très verticale du pouvoir. Bref, vous voyez, ça fait un melting pot d'électeurs très très particuliers.
Qui ne correspond ni à François Fillon, ni à Marine Le Pen, par exemple.
Non, et qui enjambe tous ces mouvements, c'est pour ça qu'il est très populaire. Mais être très populaire dans un camp, ça ne veut pas dire pouvoir le réunir hors une élection présidentielle. Ça se gagne aussi en réunissant son camp.
C'est le rassemblement. Maxime.
Je n'oublie pas qu'en 2012, l'UMP avait applaudi, l'ensemble des parlementaires UMP avaient applaudi Éric Zemmour à leur congrès.
C'est vrai.
Je n'oublie pas la convention de Marion Maréchal Le Pen où il avait été ovationné. Donc, je pense qu'il ne faut pas lui faire un jugement trop hâtif. Il a des convictions qui sont les siennes. Il a des dérapages. Moi, je partage beaucoup de ses constats. Je suis en désaccord avec beaucoup, par contre, de ses propositions. Je pense qu'il dérape parfois et qu'il ferait mieux se modérer.
Est-ce qu'on peut parler un dérapage, c'est quelque chose d'involontaire. Vous êtes sur la route, vous tournez pas assez fort ou alors trop fort. On n'a pas l'impression que par moment... J'ai pas le souvenir d'avoir entendu Éric Zemmour dire « j'ai eu tort de dire ceci », par exemple.
Parce qu'il y a l'orgueil qui parle. Mais de mon souvenir, après je peux me tromper, mais de mon souvenir, j'ai toujours vu plutôt qu'il était parti dans un discours, dans un verbiage, et qu'au bout d'un moment, hop, il sort un truc qui l'échappe et qui justifie des recours. Puis il faut quand même être honnête, on lui pardonne rien. C'est-à-dire que le moindre mot un petit peu déplacé vaut un contentieux. Il a quand même gagné pas mal de contentieux.
Il a gagné le dernier, notamment, il a été relaxé.
J'ai regardé, il a eu 4 contentieux où il a été condamné. Oui, toujours pour les mêmes problèmes.
C'est un multirécidiviste quand même sur la haine raciale. C'est un délinquant multirécidiviste.
Il y en a 5 qui ont été classés, 4 qui ont été jugés. Donc je pense qu'on est un peu dans le kiff-kiff. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, il est vraiment exposé. Et l'exposition fait qu'il a beaucoup de recours. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dérapages qui ne sont pas poursuivis en justice parce que c'est pas Éric Zemmour qui les a dit. Après, sur la question d'un bon candidat pour la présidentielle, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les Français vont attendre une union nationale, vont vont attendre un réconfort, vont attendre une réconciliation des Français. Et je ne suis pas certain que sa position de polémiste depuis 10 ans soit la meilleure
trop
pour
clivant.
Répondre. Ouais, je pense trop qu'il est un clivant, peu trop clivant. Mais il a un an.
Ouais.
Il a un an pour changer d'image.
C'est ça.
Et ça peut aller très vite.
Et
il le veut, il le peut, et surtout, il a l'exposition médiatique pour le faire.
Alors, il a l'exposition médiatique d'ailleurs, pour le faire. Il faut rappeler que depuis qu'il a son émission sur CNews, les audiences ont absolument décollé. C'est vrai, Nicolas Corato l'a dit lui-même. Ce qui montre bien une énorme notoriété, ou en tout cas popularité. Ça, c'est la première chose. Vous reveniez justement, vous disiez que c'était un multirécidiviste, Nicolas Corato.
Oui, je disais que les voleurs de mobilettes, on compare pas leur nombre de relax avec leur nombre de condamnations pour en faire socialement des délinquants, mon cher Maxime. Donc, nombre de relax de Éric Zemmour m'intéresse beaucoup moins que le nombre de ses condamnations définitives en justice.
Juste un point, quand même. La jurisprudence de la Cour de cassation a changé en 2017 et il est beaucoup moins condamné actuellement parce qu'il ne fait pas d'exhortation à la haine. Avant, elle était beaucoup plus liberticide et moi, je suis un partisan de la liberté. C'est-à-dire que je pense que les choses peuvent être dites. Après, c'est aux Français de les juger. Ils sont des citoyens adultes intelligents pour se rendre compte que des grosses bêtises peuvent être dites. Mais moi, je me méfie quand même. C'est mon opinion personnelle parce que je fais confiance en l'intelligence des Français pour comprendre que des fois, il y a des grosses conneries qui sont dites et être capable de les juger par eux-mêmes. Bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Mais en tout cas, je ne voudrais pas qu'on aille attaquer Éric Zemmour simplement sur ses condamnations pénales. Je pense que le vrai problème, c'est la personne. C'est-à-dire qu'il est trop clivant. Et je ne suis pas certain qu'ils correspondent à l'image qui est attendue aujourd'hui, qui est à la fois celle de fermeté, mais aussi de réconciliation. Et je ne suis pas certain que ce soit le meilleur pour la réconciliation.
Nicolas ?
Non, l'autre problème d'Éric Zemmour, c'est qu'une campagne électorale, ce n'est pas une émission avec Christine Kelly. C'est pas une émission avec une cour d'éditorialistes qui l'écoutent béatement et qui parfois interviennent pour relancer le maître. Une campagne électorale, c'est pas être soi-même devant une page blanche, écrire un livre qui sera livré de manière unilatérale à son public qui l'adore, qui l'attend et qui parfois fantasme sur ses prochaines responsabilités. Une campagne électorale, c'est se jeter dans un chaudron, aller débattre à partir d'idées, aller débattre contre les idées des autres, mais affronter également les arguments des autres. Et Éric Zemmour, qui est peut-être un très très bon éditorialiste, n'est pas un très grand débatteur. Éric Zemmour, il n'est pas habitué finalement à ce champ de la politique, ce champ avec un T de la politique, où les arguments des uns et des autres s'embranchent pour créer une sorte de symphonie de débat public. C'est ça aussi le débat d'une présidentielle. Or, là-dessus, Éric Zemmour ne va pas jouer avec les mêmes arbres qu'aujourd'hui sur CNews ou face à ses lecteurs. On change bien de niveau. On passe d'un intellectuel éditorialiste à un candidat à une élection politique qui devrait s'engager beaucoup plus.
Sans parler du fait que...
Et je ne suis pas sûr qu'Éric Zemmour ait très envie de s'engager au-delà de la position très confortable qu'il a trouvée aujourd'hui, c'est-à-dire le sage très écouté à droite et à l'extrême droite, qui lui donne une aura et finalement une position de consultant hors norme, de conseil de tout ce petit monde qu'il écoute comme le dernier oracle à la mode.
Sans parler du fait qu'une campagne électorale est toujours très violente, que tous les coups peuvent sembler permis à tous les camps, hein, d'ailleurs, et qu'il pourrait en faire les frais comme tous les autres.
Bon, c'est quand même un bon débatteur parce que toutes les personnes qui veulent aujourd'hui l'affronter ont intérêt de bien se préparer. Là, il y avait le jeune secrétaire d'État, M. Beaune, qui allait débattre face à lui. Il était tout rouge, il était rouge écarlate. Et puis honnêtement, il a perdu son débat face à un Zemmour qui était très bien préparé sur la souveraineté nationale, sur la vision de l'Europe.
Il n'a pas joué sur son terrain, le secrétaire d'État.
Là, il n'a pas joué sur le bon terrain. Là où Nicolas a raison, c'est que en effet, une campagne présidentielle, c'est pas la même chose.
Non.
C'est-à-dire d'aller manger des kilomètres de route pour aller voir tous les villages de France. Bon, je caricature, mais c'est très compliqué. Et est-ce qu'il va être proche des Français ? Est-ce que les Français vont le sentir ? Comment ils vont le sentir en dehors du petit écran ? N'est pas Chirac qui veut. Alors bon, on a eu des présidents qui avaient un charisme plus ou moins mauvais. On pourrait parler de Monsieur Hollande, on pourrait parler d'autres. Oui. Mais je pense qu'il a un vrai boulot sur son image. Autant il a un fond, autant il a un programme qui est construit parce qu'il a écrit dessus, Mais c'est quand même particulier dans ce pays où on a des gens qui ont une image présidentielle mais qui n'ont pas de programme, puissent être concurrencés aujourd'hui par quelqu'un qui a un programme mais qui n'a pas une image présidentielle.
Oui, ou alors une image... Oui, voilà, pas d'image présidentielle.
Maxime, moi, Nicolas. J'ai jamais vu un programme de M. Zemmour. C'est quoi le programme d'Éric Zemmour?
Quand tu lis ses livres, que tu vois ses passages à la télé, s'il voulait en écrire un, il n'aurait pas de mal.
Constat, c'est du constat qu'on peut mettre en pièce assez facilement lorsqu'il daigne débattre avec des vrais historiens ou des vrais hommes politiques et lorsqu'il accepte, mais il n'y a jamais rien de programmatique chez Éric Zemmour.
Il fait des propositions.
À part faire retourner l'ensemble des populations d'origine immigrée dans leur pays, ce qui constitue quand même une impasse. On a vu d'autres avoir ce discours il y a quelques années et revenir, y compris dessus, parce qu'il y a un moment où la réalité l'emporte, mais je ne vois rien de programmatique. Absolument rien de programmatique dans les écrits d'Éric Zemmour.
Sur l'euro, Maxime. C'est l'un des rares souverainistes, c'est même le seul aujourd'hui qui assume encore, peut-être avec Florian Philippot, qui assume qu'il faut sortir de l'euro. Après, je dis pas qu'il a forcément raison.
Mais le programme, c'est comment on le fait, Maxime. Non, mais d'accord. C'est très bien de dire sortir de l'euro. Et moi je veux l'égalité pour tous. Voilà, mais très bien, mais on fait comment? Moi, ce que j'appelle un programme politique, c'est un moment de mettre en accord un projet avec des idées. Éric Zemmour, pour l'instant, il fanfaronne sur l'euro.
On peut pas lui dire qu'il a pas de projet, on peut pas lui dire qu'il a pas d'idées. C'est même style le distingue aujourd'hui. C'est même ce qui fait qu'il vend des livres, c'est-à-dire qu'il a une vision de la France qui n'est peut-être pas celle qu'on partage, ou que tu partages, mais en tout cas, il a quand même une vision de ce pays, il essaie de le défendre. Après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on puisse le démolir facilement ou pas, c'est autre chose. Mais moi, je pense qu'il a quelque chose à dire, et c'est pour ça qu'il attire autant, aussi bien
c'est
dans ses ventes de bouquins que par la publication qu'on voit actuellement.
Est-ce qu'il fascine ou qu'il rebute, par exemple,
déjà, si on avait deux, trois bonnes idées avec un candidat à la présidentielle, peu importe le candidat, ce serait déjà pas mal, parce que ça fait des années qu'on n'a pas grand-chose.
Quoi qu'il en soit, ça nous amène une autre question, aussi bien pour vous, Nicolas Corato, que pour vous, Maxime Thiébaud. C'est alors qu'un des derniers sondages donnait Marine Le Pen quasiment au coude à coude avec Emmanuel Macron en cas de second tour. 52% pour Emmanuel Macron, 48%, c'est très serré. Alors que Marine Le Pen est en tête d'à peu près tous les sondages qui préfigurent le premier tour de cette élection présidentielle. Qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce qui fait qu'on essaye, comme vous l'avez dit vous-même, Nicolas Corato, toujours de se demander qui ferait un meilleur candidat? Pourquoi Marine Le Pen semble être toujours le plan B ou le plan par défaut, Nicolas Corato?
Oui, peut-être parce que pour une fois depuis longtemps, l'extrême droite est devenue majoritaire dans ce pays en termes culturels et en termes d'idéologie. Les idées de l'extrême droite sont majoritaires. Et donc, les militants, les sympathisants de l'extrême droite et de la droite extrême en sont à se dire qu'ils sont aux portes du pouvoir et qu'il suffit de pousser. Et puis se disent que finalement, c'est pas avec Marine Le Pen qu'ils pourront prendre le pouvoir et qu'elle ne fera que réitérer l'échec qui a été le sien en 2017, qui est un échec tout à fait relatif parce que malgré sa très mauvaise prestation en débat, elle a quand même augmenté son score de plus de 3 millions de voix entre les deux tours. Donc, tout ça est... Donc oui, il y a la recherche d'une certaine frange de la droite extrême et d'extrême droite d'un autre candidat que Marine Le Pen. Ça a été longtemps... Alors, il faut savoir qu'Éric Zemmour est très proche de Marion Maréchal Le Pen et qu'on nous a longtemps expliqué que c'était Marion Maréchal Le Pen qui pourrait prendre la place de sa tante. Et finalement, elle a respecté l'ordre héréditaire, donc elle ne reprendra l'épicerie familiale après le deuxième échec de sa tante. Mais on voit bien qu'il y a une remise en cause permanente en ce moment de la candidature de Marine Le Pen. C'est aussi parce qu'effectivement, c'est un peu touche pas au Grisby. C'est-à-dire que tout le monde se rend compte que c'est peut-être jouable cette fois-ci. C'est peut-être le moment de la droite extrême et de l'extrême droite pour s'emparer du pouvoir.
Maxime Thiébaud.
Je pense que Marine Le Pen n'a jamais été aussi proche d'une victoire à l'élection présidentielle.
C'était le sens de ma question, en tout cas d'après les intentions de vote, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passera dans un an. Mais les sondages sont quand même extrêmement serrés,
Très serrés. Les marges d'erreur, des marges d'erreur
et
aussi.
Pourquoi parle-t-on autant et
mais qui parle
aussi Mais pourquoi la presse? Pourquoi les militants? Voilà. Pourquoi sur les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup de sympathisants, y compris du Rassemblement National, qui préfèrent Marion, d'autres préfèrent Ménard, certains préfèrent Zemmour, et ils sont assez nombreux.
Parce qu'il y a une chance de victoire qui est réelle. Donc, automatiquement, ça suscite les vocations. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour gagner une présidentielle, il faut une machine derrière soi. Et soit on a le temps de la construire, comme avait eu le temps de le faire M. Macron, soit on n'a pas le temps. Et je pense qu'Éric Zemmour n'aura pas le temps, mais Marine Le Pen a une machine électorale. Elle aura son élection régionale. Elle a fait un mea culpa qui a quand même plu énormément à ses militants par rapport au débat de 2017. Et je pense que ça a joué dans la psychologie des militants, parce qu'elle devait s'inquiéter aussi de ses militants qui puissent se dire, tiens, on va faire une prime primaire, ou bien on aurait pu voir des idées comme ça apparaître. Hein. Rien n'est impossible après tout. Et là, je pense qu'elle est arrivée à resserrer les rangs derrière elle. Donc, elle s'inquiète peut-être d'un Éric Zemmour parce que certains pourraient avoir un intérêt à voir Éric Zemmour candidat, donc à pousser sa candidature, à lui permettre les parrainages pour faire descendre un petit peu Marine Le Pen et peut-être lui empêcher d'être au second tour. Mais sauf cette circonstance-là, je ne vois pas aujourd'hui sont les véritables concurrents de Marine
Le Pen. Vous avez un autre exemple qui est en train de se profiler, c'est dans la région Occitanie, où il est encore possible qu'il y ait une liste entre le Rassemblement National et entre les Républicains, qui serait menée à la fois par la maire LR de Montauban, Brigitte Barège, et le maire proche du RN, Robert Ménard. Cette liste est à 14%. Deux petits points seulement derrière le Front National qui lui est donné pour l'instant à 16% pour les régionales en Occitanie.
Régionale, c'est quand même pas pareil qu'une présidentielle.
Bien entendu, y aller, c'est quand même très différent, mais ça semble aussi montrer qu'il y a de la place entre le Front National et les Républicains, ou alors à droite du Front National par exemple. Nicolas Corato, peut-être le mot de la fin en un mot.
L'extrême droite va connaître ce qu'ont connu d'autres forces politiques, c'est-à-dire la difficulté et le pari de l'unité. Aujourd'hui, il y a autant de courants dans la droite extrême et l'extrême droite qu'il y en a à gauche. Et le risque, c'est l'éparpillement. Et le risque, c'est finalement le vertige par rapport à la victoire possible.
Et c'était déjà arrivé d'ailleurs, rappelez-vous, les scores Tony Truant du Front National en 1998 aux élections régionales, avec 5 présidents de région qui sont élus grâce aux voix du Front National. Ensuite, ça n'a pas empêché la scission de Bruno Maigret et la division par 2 ou par 3 des voix du Front National aux élections européennes de 1999. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio.
Merci.
Maxime Thiebaud, élève avocat, docteur en droit, auteur du livre « Gilets jaunes vers une démocratie réelle », c'est publié chez VA Presse. Merci Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre « Grandes plaidoiries et grands procès », c'est publié chez Eridium. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Merci à vous Nicolas. La suite des vraies voix qui font bouger la France dans quelques instants sur Sud Radio et sur Bismarck. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Ce sera avec Stéphane Soumy. À tout de suite.